Bonjour à toi et bienvenue dans Déclic avec Ingrid Alola. Je suis Ingrid, coach en estime de soi et peut-être ta coach préférée, qui sait, dis-moi. J'ai pour mission de partager avec toi les informations que j'ai recueillies dans mon passé et les leçons que j'ai tirées de la vie afin de t'aider à avoir le déclic. Pour rappel, la création de ce podcast part d'un constat. Même si tu vois ton prochain exceller, il y a souvent des blocages en toi qui t'empêchent de voir que tu as de la valeur et que toi aussi, tu es capable d'exceller. Ce que je souhaite faire, c'est t'aider à renverser ces blocages, de telle sorte que tu vois la valeur que tu apportes au monde et vives une vie qui le reflète. Pour cela, je t'invite à l'intérieur de ma tête et je partage avec toi les blocages internes auxquels j'ai été confrontée et comment je les ai dépassés. Bien sûr, je te partage aussi les fruits de mes expériences, de mes recherches et de mon travail avec mes coachés en tant que coach. D'ailleurs, plus on est sage, plus on grandit. Donc je te propose aussi d'écouter les témoignages de mes invités qui, pour moi, sont des éclaireurs. Des personnes qui sont parties en reconnaissance pour observer le terrain et ont recueilli des informations utiles au reste du groupe. Maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer ce nouvel épisode intitulé « Comment faire quand ma faible estime est un frein à ma carrière ?» Dans cet épisode, je te parle du blocage que j'avais et dont j'ai eu honte pendant longtemps. Duquel s'agit-il ? Du besoin silencieux et constant de validation extérieure. Tu pourrais me demander en quoi est-ce que c'est un problème ? Dans ce cas-là, je te répondrai. C'est un gros problème quand, à chaque étape de ton travail, tu veux vérifier avec un tiers avant de publier parce que tu n'es pas sûr de toi. C'est un gros problème quand, à chaque fois que tu reçois une critique, même si elle est constructive, tu la prends personnellement et tu te renfermes sur toi. C'est un gros problème quand, à chaque fois qu'il est question de compensation pour ton travail accompli, tu stresses à l'idée de demander plus, parce que tu imagines déjà toutes les raisons pour lesquelles on te dira non. C'est un gros problème parce que tu as une vision biaisée et négative de toi-même, alors que tu reçois beaucoup de feedback positif de tes pairs, de tes clients et de tes proches. Tu vois où je veux en venir? Si oui, alors tu sais certainement ce qui suit. Le problème, quand la validation extérieure vient combler un manque d'estime, c'est que ce besoin est insatiable. Et j'ai fini par m'en rendre compte avec mon application mobile Panora, tout sur l'univers afro. Notée en moyenne 4,7 sur 5, cette application réunissait un panorama d'excellence afro dans différentes disciplines. Danse, musique, mode, littérature, podcast, histoire, actualité, événements. Téléchargée par plus de 2000 utilisateurs, elle était unique en son genre et répondait aux rêves de nombreuses personnes de retrouver en un seul lieu tout l'univers afro. Pour autant, j'avais du mal à la valoriser car pour moi, il manquait toujours des features. D'ailleurs, il faut que tu saches que Panora, c'était ma troisième entreprise et que depuis que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, je déclarais à l'URSSAF 0€ de chiffre d'affaires à chaque fois. J'ai compris à un moment qu'il fallait que je reconnaisse ce manque d'estime comme étant un problème, car il était un frein à mon épanouissement professionnel et personnel. Si je n'avais pas reconnu cette faiblesse, je serais restée enfermée dans un cercle vicieux d'angoisse, à développer toujours plus de features, non pas pour répondre à la demande de mes utilisateurs, mais pour combler un puits sans fond, autrement dit mon manque d'estime. D'ailleurs, je me suis rendu compte avec le recul que cette volonté d'obtenir la validation extérieure était aussi une des raisons pour lesquelles j'étais restée plus longtemps que j'aurais dû dans la dernière entreprise où j'ai travaillé. En 2021, je me rends compte qu'il faut que je fasse quelque chose parce que on a beau me dire que je fais du très bon travail, que mon parcours est inspirant, en vrai, dans ma tête, je vois pas vraiment l'exploit. Donc après avoir admis qu'il fallait que je règle ce problème, je recherche de l'aide. Je me rends compte qu'il y a une multitude de coachs sur le marché avec différentes spécialisations, mais que très peu me parlent véritablement. J'avais besoin de l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle en face de laquelle ou duquel je n'aurais pas peur de me dévoiler, grâce à qui je me sentirais comprise et qui saurait me dire comment sortir de ce cercle vicieux. Je suis heureuse de dire que je n'ai plus besoin de validation extérieure pour voir la valeur que j'apporte au monde. Attention, hein, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments. Mais ce que j'entends par là, c'est que je sais recevoir la critique sans la prendre personnellement. Je peux publier ou envoyer mon travail avec assurance. Et je sais aussi demander avec assurance ce que je veux en termes de compensation. Donc si aujourd'hui tu te retrouves dans un cercle vicieux comme celui-ci, permets-moi de te proposer une manière d'en sortir. Mais avant de commencer, sache que ce que je te transmets dans cet épisode, c'est un premier jet. Si à la fin de cet épisode, tu te retrouves dans ce que j'ai dit et tu veux des réponses spécifiques à ta situation, à tes questionnements, tu auras un lien pour qu'on trouve ces réponses ensemble lors d'une session introspective. Au fil des accompagnements que j'ai réalisés, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur. Ce fil conducteur, je l'ai résumé en une méthode en quatre étapes, la méthode Make Room for the Queen. Alors commençons. Dans la première étape, il s'agit de reconnaître que tu as un problème et faire l'état des lieux. Certaines personnes savent que quelque chose ne va pas et choisissent malgré tout de ne rien faire par rapport à cela. C'est comme si tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, tu saignais du nez, mais tu n'en faisais rien. Si ce saignement se répète, toi et moi, on est bien d'accord qu'il va falloir faire quelque chose, non? Tu saignes à n'importe quel moment de la journée, ça tache tes vêtements, et maintenant, en plus de cela, tu as des maux de tête qui viennent avec. Bref, ce saignement, il est désagréable, et en plus de ça, il a maintenant un impact conséquent sur le cours de ta journée. Prendre conscience de cet impact est donc crucial. C'est comme ça que, lorsque je parle de mon travail et des transformations que mes coachs réalisent, qu'on me dit par exemple « j'aurais aimé te rencontrer plus tôt dans ma carrière ». Parce qu'on prend conscience de l'impact que l'estime de soi a sur notre qualité de vie professionnelle et personnelle. Donc une fois que j'ai reconnu que je dois renforcer mon estime, que faire ? L'état des lieux. J'appelle cette étape la révision. Quand tu penses à ton apparence, à ta carrière professionnelle, à ta personnalité, à ta capacité de réflexion, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Soyons honnêtes, hein, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu ne te vois pas forcément sous le meilleur angle. Cette révision, elle est importante, car la relation qu'on a avec les autres est le reflet de la relation qu'on a avec soi-même. Pense à une radio. Ce qu'on pense de nous-mêmes engendre une vibration qu'on envoie sur les ondes et qui nous revient par des situations et des personnes qui vont confirmer ce qu'on a pensé. Ce que l'on pense de nous-mêmes influence nos paroles et nos actes. Exemple. Je ne serai pas à ma place à ce nouveau poste. On me l'a proposé par chance. Je n'ai pas confiance en ma capacité à répondre aux attentes de ce poste. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu devais passer un entretien et tu t'es dit « je me demande comment je suis arrivée là ». Je sais pas pourquoi ils ont accepté ma candidature. Moi, oui. Et ce que je sais, c'est que dans ce genre de situation, on n'a tellement pas conscience de la valeur de notre profil que plutôt que de répondre naturellement aux questions qu'on nous pose, on stresse de peur que le recruteur se rende compte de l'erreur qu'il a faite et du coup, on dégage l'énergie d'une personne qui n'a pas du tout l'air confiante. Faire ta révision est donc nécessaire car elle te permet de faire l'état de ce qu'on appelle le self-concept ou l'image de soi. Dans la deuxième étape, il s'agit de trouver les quatre grandes erreurs qu'on a commises. C'est important d'être clair sur ce qu'on attend de la part des personnes qui sont ou entrent dans notre vie. Mais comment je peux exiger des autres ce que je ne m'accorde pas à moi-même? Les quatre grandes erreurs dont je parle font référence à toutes ces fois où je ne me suis pas accordé le respect que je méritais, je ne me suis pas accordé la compassion que je méritais, je ne me suis pas accordé la confiance que je méritais, je ne me suis pas accordé l'amour que je méritais. En listant toutes ces fois, ce que tu fais, c'est reconnaître toutes les occurrences où tu ne t'es pas accordé ce que tu attends en vain des autres. Et ça te permet d'ailleurs de voir s'il n'y a pas un modèle qui se répète. La troisième étape, c'est l'étape Sankofa. Sankofa, c'est un symbole Adinkra, représentant un oiseau, qui a les yeux tournés vers le passé et les pieds vers le futur. Arrivé à cette étape, tu sais ce que tu penses de toi, tu as listé les occurrences où tu ne t'es pas accordé ce que tu attends des autres, et grâce à cette liste, tu peux retourner dans ton passé pour répondre à la question « Pourquoi est-ce que j'ai fait toutes ces erreurs ?» Dans le cadre de mon accompagnement, toutes les sessions qu'on a ensemble nous permettent de faire ce grand plongeon dans le passé. Il y a toujours des événements, des phrases, des expériences dans nos vies qui expliquent pourquoi on se valorise aussi peu. Ces événements ont engendré des blessures qui n'ont jamais été traitées. Imagine. Tu t'ouvres la main gauche avec un couteau, tu saignes beaucoup, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêter l'hémorragie, désinfecter la blessure et la suturer si nécessaire. Pour ce qui est des blessures physiques, on comprend assez facilement la procédure à suivre pour les guérir. Mais qu'en est-il des blessures invisibles, des blessures psychologiques, des blessures émotionnelles? Non seulement celles-ci sont difficiles à percevoir, mais en plus de cela, on ne sait pas toujours comment faire pour les traiter. Pour les trouver, on peut partir du symptôme observé et remonter le fil jusqu'à la source. Attention, je n'ai pas la prétention de dire à quelqu'un « tu souffres parce qu'un tel t'a fait ci ou t'a fait ça ». Je ne travaille pas comme ça. Je pars du principe que chacune des personnes qui viennent à moi a la réponse en elle, mais ne sait pas où chercher. Pour te donner une idée du travail de recherche, voici un exemple. Admettons qu'une personne vienne me voir en session introspective, je vais commencer par une question simple. Pourquoi on est là aujourd'hui? Elle peut me répondre, parce que moins je reçois de compliments pour mon travail, moins je crois en la valeur de ce que je fais. Je veux pouvoir être sincèrement fière de qui je suis et de ce que j'ai accompli, sans avoir besoin d'une validation extérieure. Dans ce cas, je lui demanderai, qu'est-ce que tu entends par être sincèrement fière? Elle peut répondre, pas seulement le dire, mais ressentir la joie et l'excitation dans mon cœur. D'accord, je lui dirais d'accord. Et quand tu observes ton parcours jusqu'à présent, qu'est-ce que tu te dis? Elle peut me répondre, je n'ai pas l'impression d'avoir accompli grand-chose. Là, ce que je ferai par la suite, c'est revoir avec elle ce que le concept d'accomplissement signifie à ses yeux et quelles sont les expériences dans son passé qui l'ont amené à le définir ainsi. En passant par cette étape, tu es en mesure de trouver les concepts et les programmes qui influencent inconsciemment le regard que tu te portes et par effet de causalité, influencent ta capacité à obtenir plus de la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a trouvé les blessures à l'origine de notre manque d'estime? À ce moment-là, moi je te challenge à développer un plan d'action stratégique pour guérir la blessure en question et faire en sorte de ne plus réagir comme ton système nerveux t'a appris à le faire afin de fuir la douleur. Donc maintenant vient la quatrième étape, parce que c'est ça en fait, il s'agit de la quatrième étape, devenir rare et incarner sa vraie nature. Pour incarner ta vraie nature, il faut devenir rare, R.A.R.E, donc c'est un sigle, et agir en conséquence. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. C'est une bonne chose, mais ce que moi je ne prétends pas faire, c'est faire de ces personnes que j'accompagne de nouvelles personnes. Pour illustrer le travail que je fais avec mes coachés, je vais te parler du film Le Voyage de Chihiro. C'est un film du studio japonais Ghibli. Il est juste magnifique. Et petit aparté, Le Voyage de Chihiro et Le Château Ambulant, ce sont les deux films qui m'ont poussé à me dépasser pour jouer du piano sérieusement. Fin de l'aparté. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais référence au Voyage de Chihiro? Je t'explique. Dans ce film, il y a une petite fille qui s'appelle Chihiro. Et il s'avère qu'en fait, ses parents ont été transformés en porc par la sorcière Yubaba. Pour qu'il redevienne humain, Chihiro doit travailler pour Yubaba dans son établissement de bain. Un soir, un esprit puant recouvert de boue entre dans l'établissement. Les employés font fi de ne rien sentir, mais l'odeur, elle est juste insupportable et personne ne veut s'en occuper. Donc Chihiro, toute nouvelle, a la responsabilité de s'en occuper. Elle déverse sur l'esprit des eaux luxueuses ou luxuriantes. Mais sans succès. La saleté ne part pas. Elle se fatigue, mais elle ne désespère pas. Après observation, elle se rend compte que sous cette boue, il y a un guidon de bicyclette qui dépasse. Elle trouve une corde, elle l'attache au guidon, et avec l'aide des autres employés de l'établissement, elle réussit à tirer non seulement le guidon en question, mais tous les détritus que l'esprit puant avait sur lui. Il s'avère en fait que cet esprit puant, c'était l'esprit d'une rivière. Et grâce à Chihiro, l'esprit en question a été libéré du poids et de la puanteur de tous les détritus qu'il avait accumulés. Ça signifie aussi que sa vraie nature était cachée sous tous ces détritus. Donc comme Chihiro, je coach et j'accompagne pour découvrir la vraie nature qui se cache sous tous les masques qu'on a développés pour fuir la douleur. Je ne ferai pas de toi une nouvelle personne. Dans notre réalité, ce que l'on peut apparenter à des détritus, ce sont les masques et les mécanismes d'adaptation qu'on a développés après des traumatismes. Ces traumatismes-là, on peut en faire une force, mais pour cela, il faut les revoir, les affronter et choisir d'agir autrement face aux futures situations. C'est pour ça que le sigle rare est là. Maintenant, je vais te dire ce à quoi correspond chacune des lettres, mais avant ça, est-ce que tu peux mettre pause pour noter le podcast ? Et dire en commentaire ce qu'il t'apporte. Tu peux le faire sur n'importe quelle plateforme. Je suis pas pointilleuse par rapport à ça. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nanana cast, peu importe où tu écoutes le podcast actuellement. Est-ce que tu peux mettre pause et prendre le temps d'aller mettre 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que tu veux et dire ce que t'en penses. Parce que pour moi, c'est une forme de récompense pour mon travail et ça permet aussi à ceux qui ne connaissent pas encore Déclic avec Ingrid Alula d'en découvrir les gains. Je te remercie beaucoup. On continue. Donc ça signifie quoi rare? R pour respectueuse de ses propres limites ou respectueux de ses propres limites. A pour assertive ou assertif. R pour responsable de sa situation. Et E pour être l'égal de ses pairs. Sur le papier, respecter ses propres limites, ça a l'air simple. Il suffit de s'éloigner de ceux qui ne les respectent pas. Il suffit de dire non quand on ne veut pas faire quelque chose. Sauf que tu le sais bien, souvent, on fait beaucoup de compromis qu'on regrette plus tard parce qu'on n'a pas respecté les limites qu'on s'était fixées. À titre personnel, j'ai failli faire un compromis qui aurait représenté un manque à gagner de 3 ou 4 000 euros. J'ai eu peur que mon programme soit trop coûteux pour une future cliente et peur de l'appauvrir. Du coup, je lui ai proposé de l'aider gratuitement. Sauf que je me suis rendu compte que je me manquais de respect en faisant cela, donc je l'ai recontacté pour revoir les conditions de notre travail ensemble. Le fait d'avoir pris conscience du manque de respect m'a permis de rectifier la chose. Pour attendre un meilleur traitement de la part des autres, on doit donc checker le nôtre. Je ne peux pas demander aux autres de respecter des limites que je ne respecte pas moi-même. Ensuite, il s'agit d'être assertive ou assertif, capable de s'exprimer et défendre sa position sans empiéter sur les autres. Quand on manque d'estime, on pense ne pas être assez important, ne pas être assez intéressant et on s'efface. C'est l'un des mécanismes qu'on développe quand on a été rejeté dans notre enfance, par exemple. Être assertif, c'est donc abandonner ce mécanisme, déposer le masque du fuyant et se défendre tout en ayant conscience de la valeur qu'on apporte aux autres. Passons donc à la troisième lettre du sigle rare. Est-ce que tu suis toujours ? R, c'est pour responsable, responsable de sa situation. C'est comprendre qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes adultes et que, un, même si nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous est arrivé, nous sommes aujourd'hui responsables de la direction que nous pouvons prendre. Et deux, c'est comprendre que nous avons la responsabilité de façonner notre futur. Donc, être responsable. La dernière lettre, c'est E, comme être l'égal de ses pairs. Dans ce dernier point, il s'agit de se rappeler que même si tu développes une haute estime ou une estime saine, tu te dois de traiter les autres comme tes égaux, les traiter comme tu voudrais être traité, comme tu veux être traité, comme tu demandes à être traité. En considérant chacune de tes relations comme une relation d'égal à égal, tu t'assures de ne pas développer un sentiment d'infériorité ou de mépris à l'égard de ton prochain. D'ailleurs, à mes yeux, c'est ça qui fait la différence entre arrogance et haute estime de soi, le rapport aux autres. Voilà ce que signifie devenir rare. Et je te rassure, ça s'apprend. Et si une femme comme moi, introvertie, souffrant d'un perfectionnisme excessif, y est arrivée, c'est la preuve que toi aussi tu peux y arriver. Je t'ai transmis ce qui, à mon sens, m'a permis et a permis à mes clientes de reconstruire leur estime. Comme je te l'ai dit, c'était un premier jet. Et si tu veux savoir dans ton cheminement si tu es sur la bonne voie, ce que tu peux utiliser comme un indice, c'est le fait que tu ne réagis plus de la même façon dans les mêmes situations de stress. Tu as conscience de tes blessures, des peurs qui te traversent, et tu as le dessus sur elles. Maintenant, soyons clairs. En arriver là, ça requiert de ta part un investissement en temps, en énergie et beaucoup de discipline. Maintenant, j'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu veux passer à la pratique, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que tu veux retrouver le goût de la vie et vivre une vie qui reflète ce que tu mérites, voire plus? Tu peux reprendre tout ce que je t'ai transmis aujourd'hui et tenter par toi-même de renverser les mécanismes que tu adoptes à chaque fois qu'une situation stressante se présente depuis des années. Mais tu sais comme moi à quel point c'est difficile d'y arriver seul. On n'est pas sûr de remonter assez loin dans son passé, on ne se donne pas de deadline, donc il y a de grandes chances qu'on abandonne, et vu que nos peurs ont toujours le dessus sur nous, ce qui était au départ un simple saignement du nez se transforme en un problème beaucoup plus grave. Pour éviter d'en arriver là, pour éviter d'arriver à une situation beaucoup plus grave, que ce soit le burn-out ou le regret de ne pas avoir profité du temps que tu avais sur Terre comme tu aurais voulu, Tu peux choisir de rejoindre l'un de mes accompagnements cette année. Esteem Reboot, qui est un accompagnement de groupe, ou Make Room for the Queen, qui est un accompagnement individuel sur mesure. Si tu sais que tu abandonnes facilement tes résolutions quand il n'y a pas d'objectif spécifique, ni quelqu'un à qui rendre des comptes, c'est pour toi. C'est une chance que je te donne, car tu as une méthode qui a fait ses preuves. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est rejoindre le cadre qui te permettra d'incarner ta vraie nature, le cadre de ton choix. Que tu choisisses de rejoindre Make Room for the Queen ou Esteem Reboot, tu vas passer par la case Session Introspective. C'est faire l'état des lieux dont on parlait tout à l'heure et définir les axes de travail qui t'amèneront à devenir celle que tu veux être. Ou celui que tu veux être, parce que les hommes aussi peuvent rejoindre le coaching de groupe. The group, yes. Esteem Reboot. Donc, pour passer à la pratique et voir les résultats concrets dans ta vie, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Et je te dis à très bientôt dans Déclic avec Ingrid Alola.